Je vous inviterai sans plus tarder, frères bien-aimés et sœurs, à regarder Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, c'est un choix pour commencer cette année, une exhortation à aller de l'avant pour le Seigneur. Et on en a besoin tous et chacun, je pense. Et je vous invite donc à lire avec moi. On va lire les trois premiers versets, mais comme vous le savez, si vous étiez dimanche dernier ici, on regarde les quatre verbes de ce passage et on va regarder le deuxième, en fait, verbe qui est exprimé au verset 1. Alors, Hébreux, chapitre 12. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des... Peut-être, Stéphane, tu veux prendre quelques Bibles ici à gauche et dans le secrétariat et les passer. Si vous n'avez pas une Bible, on va vous passer une Bible. OK. Prions. Notre Père, merci pour ce temps de ta parole qui est un privilège que l'on a de tourner la Bible sans aucune crainte, en toute liberté, d'étudier, de méditer, de mémoriser, d'apprendre et de pratiquer cette parole qui est une lumière sur notre sentier. Oui, c'est notre espérance et sans ta parole, tout s'écroulerait, mais ta parole est véritable et ta parole est la vérité. Aussi, Seigneur, nous sommes dans la joie profonde de te connaître et d'être enseigné, d'être conduit par cette parole. Merci Père, même si parfois elle nous reprend, elle nous pique, elle nous tatillonne, elle nous redresse, nous te remercions parce qu'elle est lumière et vérité. Accorde-nous un cœur attentif, un cœur tendre, un cœur enseignable, parle, comme le disait Samuel, ton serviteur écoute, afin que nous puissions être des hommes et des femmes faits et mûrs pour t'aimer, te servir, te faire connaître, te glorifier et t'adorer du fond de nos cœurs. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment cette parole. Donc, Hébreux chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. En lisant les textes dans deux traductions différentes, et puis tout simplement en regardant aussi l'original, on voit que le premier verbe, dont on a parlé dimanche dernier, en fait est un participe présent, c'est « rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement » et « courons », c'est un impératif, autrement dit, tout pour courir, tout en courant, Dieu nous appelle à rejeter le fardeau, n'importe quel fardeau, on en a parlé dimanche dernier, et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin de nous alléger pour pouvoir courir et persévérer dans cette course. Ensuite, il est question de courir avec persévérance, regarder, ayant les regards sur Jésus, on le verra, Dieu voulant, dimanche prochain. Et puis, donc c'est un participe présent, et puis au verset 3, considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne, un quatrième verbe, rejeter, courir, regarder, considérer. Et en fait, l'un va avec l'autre, c'est indissociable. Pour juste remettre peut-être le texte dans le contexte qu'on avait fait dimanche dernier, pour commencer cette mini-série sur Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, on a vu qu'Hébreux chapitre 12 suivait Hébreux évidemment chapitre 11, qui est le chapitre des héros de la foi. Le Seigneur, c'est incroyable parce qu'on a besoin d'avoir des témoins autour de soi qui nous poussent d'aller de l'avant parce qu'on risque de se décourager ou de se lasser ou de se sentir fatigué là, c'est un petit peu de se relâcher dans le ministère ou l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle sur cette terre, dans notre vocation céleste. Alors il y a toute une série des héros de la foi, des exemples d'hommes de l'Ancien Testament et de femmes qui ont suivi Dieu le Seigneur, même jusqu'à la mort, parfois à la mort de martyrs. Et puis nous, nous sommes environnés de ces témoins. On peut ajouter les héros du Nouveau Testament, on peut ajouter les héros de la foi au travers de l'Église qui se sont manifestés, et voir tous ces martyrs, n'est-ce pas, qui est le sang des martyrs et la semence de l'Église, et puis être encouragé. En fait, nous avons besoin d'être encouragés. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte, enseigne, parfois réprimande, avertit ces Hébreux, mais son but, c'est de les encourager. Après avoir décrit ces héros de la foi du chapitre 11, il manquait le modèle par excellence qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là, ce matin, nous sommes invités à rejeter le fardeau, le péché, et à courir ayant les yeux fixés sur Jésus, le modèle parfait qui ne faillit jamais. On peut être découragé ou déçu d'abord par soi-même ou par ceux peut-être qui nous entourent, mais on n'est jamais déçu du Seigneur Jésus-Christ qui n'a jamais failli dans sa vocation et dans ce qu'il a accompli pour chacun de nous. En fait, l'apôtre Paul décrit par métaphore la vie chrétienne. Par exemple, il la compare à un combat. C'est pour ça qu'en 2 Timothée 2:3, il écrit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ » et puis plus loin, « De revêtir toutes les armes de Dieu » Éphésiens 6, 11. Donc la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne n'est pas facile. Quand nous avons la joie d'amener quelqu'un au Seigneur, bien sûr, la personne découvre Dieu, elle a la paix, elle découvre aussi que le diable existe, et c'est le combat qui commence. On doit enseigner rapidement aux jeunes croyants que la vie chrétienne est un combat. Et même Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi ». Il y a une part de souffrance dans la vie chrétienne. C'est un combat. Et même Paul dit à un moment donné, « Je frappe non pas comme battant l'air », il compare la vie chrétienne au pugilat, à la boxe. Quelque part, ça demande un entraînement. Il faut éviter les coups, évidemment, les coups de l'adversaire, le diable, et puis savoir combattre et donc être exercé. Il compare aussi la vie chrétienne, et là, il y a beaucoup d'exemples, à une marche dans l'amour, une marche dans la lumière, et une marche dans la vérité, etc. Et puis aussi à une course. Et Paul dit, « Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure. » On pourrait courir à tous azimuts et n'atteindre aucun but. Et c'est ce que voulait absolument éviter Paul pour courir pour l'éternité. Et c'est exactement ce que fait ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il compare la vie chrétienne à une course. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Non seulement le croyant est comparé à un coureur, mais il a une place précise où courir. La Bible dit ici, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes appelés à courir, comment ? Avec persévérance, ou dans la carrière qui nous est ouverte. Qui c'est qui ouvre les portes ou qui ferme les portes pour le croyant, si ce n'est Dieu lui-même ? Êtes-vous dans la carrière de Dieu ce matin ? Avez-vous déjà commencé à courir ? Êtes-vous dans le Christ ? Êtes-vous parmi ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur ? Pour naître de nouveau et être conduit par le Saint-Esprit, justement, à courir. Ici, en fait, l'impératif, on pourrait traduire d'après l'original, et soyons toujours en train de courir. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible de toujours courir ? Moi, j'ai remarqué quand, ça y est, j'ai pris un peu de poids, fais un peu moins d'exercice, dis, ça y est, tu vas reprendre l'exercice. Et je me souviens une fois où j'ai fait la ligne droite, pour ceux qui sont déjà venus à la maison, de la maison avant de descendre la côte. Descendre, c'est relativement facile. Et la ligne droite, et après 5 minutes, j'étais là, je soufflais et dis, oh là là là, je ne suis pas trop entraîné, n'est-ce pas ? Donc le deuxième jour, troisième jour, enfin, où les jours s'espacent, on se sent mieux, puis on descend la côte, puis j'ai pu la remonter. Mais vous savez, courir, ça demande l'exercice. Mais qui d'entre nous peut toujours courir ? On est toujours à la course dans ce monde, c'est vrai, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire, cela, de courir pour le croyant ? En fait, le mot « carrière » ici, dans le grec, le mot est « agon », qui a donné le mot français « agonie ». C'est comme si, et d'ailleurs, « agon » pourrait se traduire par « combat » ou « stade ». Dieu nous place dans un endroit, mais quelque part, on court. Ce n'est pas de tout repos. Il y a le repos de Christ en nous, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, Mais la vie chrétienne n'est pas de tout repos quelque part. Il y a comme un combat, un exercice dans un stade et en cours. Et en fait, on a tendance parfois à courir des sprints. C'est plus facile de faire un 50 mètres et 100 mètres, peut-être à la vitesse qu'on peut faire, bien sûr. Hein. Tout le monde n'est pas des champions du 100 mètres, comme certains aujourd'hui, français ailleurs. Mais c'est une course, je crois que c'est plutôt un marathon. C'est agonie, notre combat, c'est toute la vie. Donc ce matin, le titre du message, c'est « La course de la vie ». Et on est placé dans cette course au moment où on se convertit. Mais c'est vrai que parfois, il y a des croyants qui voudraient courir intensément, peut-être par manque d'exercice, un petit sprint et puis s'arrêter là. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous invite. Dieu nous invite à un effort continu, persévérant et à courir continuellement. Et on va voir comment, parce que personne d'entre nous ici, enfin certainement que si on se mettait tous sur les starting blocks, il y en a qui pourraient faire 100 mètres, 200 mètres, peut-être même 40 km. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait déjà des marathons, etc. Mais évidemment, ça dépend de l'entraînement. Mais personne ne peut toujours courir. Et pourtant, la Bible dit, soyez toujours en train de courir. Alors, on va regarder la limite de la métaphore. Quelqu'un a dit ceci. Le long du chemin, le chrétien se tient debout comme un soldat. J'aime bien cette citation. Marche comme un croyant, court comme un athlète. Mais un jour, il volera pour un voyage spécial vers la Nouvelle Jérusalem. C'est beau cela. Ça y est, on est démarré, on s'est levé, on marche, on court, et un jour on s'envole vers le ciel. Bien sûr, c'est lui qui nous prend. Hein, on n'a pas des ailes tout d'un coup. C'est lui qui nous appelle et au son de la trompette, à la voix de l'ange, la Bible dit que nous serons tous transformés à l'image de Christ dans les cieux, à la rencontre du Seigneur avec un corps glorieux. C'est magnifique cette espérance. Mais en attendant, on court et parfois on s'essouffle et on se fatigue. Alors, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de cette course? Comment la Bible décrit-elle cette course? Et je vous lis quelques passages, d'accord? Peut-être pas besoin de tourner dans vos Bibles. Si vous voulez prendre des notes, je vous donne les références. Tout d'abord, c'est une course. Tiens, qui demande, puisqu'on parle de course, c'est quand même une métaphore liée à l'effort de l'athlète. C'est une course qui demande discipline et voire sacrifice. En 2 Timothée 2,5, Paul dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Quelqu'un a dit « Il n'y a pas de disciple sans discipline. » Fixez-vous des buts dans votre vie. Fixez-vous des buts, par exemple, qu'est-ce que vous allez lire cette année dans la Bible? Est-ce que vous allez lire la Bible en une année, en 2 ans, en 5 ans? Mais vous savez, quand on ne fixe aucun but, on est sûr de ne rien atteindre. Et c'est difficile de se discipliner dans la vie, d'avoir des horaires fixes, pour même les repas et pour lire la Bible, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y a des disciplines personnelles à avoir tous les jours pour garder la flamme de Christ, pour continuer cette course et être exercé dans cet exercice spirituel. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, Paul dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» On verra la différence entre la course, compétition dans un stade, et puis la course du croyant. Mais Paul ici, son point, c'est ceci. Les croyants ne sont pas appelés à faire compétition entre eux. Mais Paul veut que chaque croyant ait un esprit de vainqueur, de victoire. Courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Autrement dit, Dieu dit, ne te préoccupe pas de ceux qui sont autour de toi, mais sache une chose, que toi, tu es appelé à remporter la victoire. Cours, tu as un prix à remporter. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il n'est pas question ici de légalisme ou d'ascétisme, il est question d'une discipline volontaire pour garder le cap, et c'est nécessaire dans notre vie. J'ai noté aussi un autre verset, psaume 112, verset 32, qui dit ceci, « Je cours dans la voie de tes commandements. » C'est beau cela, « car tu élargis mon cœur. » Tout le monde dit dans la course, le chemin tracé, c'est le chemin de l'obéissance à Dieu. Il faut savoir si on est en train de courir, mais en train de courir dans la bonne carrière. Et la carrière, c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. je cours dans la voie de tes commandements. Donc, une soumission à la parole, pas simplement une écoute et qui passe par une oreille, qui sort de l'autre, mais une mise en pratique des principes de Dieu. C'est pour ça qu'on doit lire la Bible. Aussi, merci Seigneur, j'aime bien ce verset aussi pour notre course qui dit « Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » La course dépend de la miséricorde de Dieu. Heureusement que Dieu est miséricordieux envers nous. Il y a un temps où on a besoin de se reposer, de se rafraîchir, de se ressourcer. Et c'est normal de devoir se ressourcer dans le Seigneur tout en courant pour lui. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas actif qu'on n'est pas en train de courir pour le Seigneur. Ben, c'est peut-être un temps de repos spirituel, de ressourcement, de rafraîchir son cœur spirituel. Je pense que moi, je n'ai jamais fait un marathon. Hein. Je n'ai jamais eu le courage, d'ailleurs. Je ne sais pas si un jour je le ferai. Mais les marathoniens, ils sont arrêtés. Ils ne s'arrêtent pas, mais on leur tend toutes sortes de choses pour boire, notamment. Parce que c'est tellement épuisant, ces dizaines de kilomètres, etc., à courir. Donc, nous avons besoin aussi de prendre le temps de laisser la miséricorde. Car Dieu prend plaisir à la miséricorde. Nous oublions cela, on est des fois tellement actifs, on se pousse, allez, il faut faire, presque faire des heures, alors que Dieu nous dit tout simplement qu'il veut exercer sa miséricorde dans nos vies. Il y a une belle promesse concernant la course, en Proverbe 4:12 qui dit « Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. » Donc c'est une promesse que malgré l'effort continu dans notre course chrétienne, dans différents domaines, on en parlera dans un instant, bien Dieu promet qu'on ne chancellera pas, dans la mesure où on reste attaché à celui qui en donne la force de courir. Tu ne chancelleras point. Et puis aussi, il y a une belle promesse, mais des avertissements. Et j'ai pensé à l'instant vous les donner, parce que c'est la parole qui le dit. Paul dit ceci en Galates 2:2, « Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Paul prenait le temps d'évaluer sa vie chrétienne, sa course. Est-ce que je suis en train de courir dans la bonne carrière? Est-ce que je suis en train de courir de la bonne façon? Je n'ai qu'une vie à vivre. Je la vis pour l'éternité. Je ne veux pas courir en vain. Je veux courir, j'allais dire, avec le Seigneur, qui soit là, qui me dirige, qui me fortifie, et que je sois au bon endroit. Philippiens 2:16, Paul dit « Pourtant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Vous avez déjà travaillé, puis le travail n'a pas été aussi fructueux que vous vouliez, ou vous avez raté quelque chose. Je me souviens dans le bricolage, moi parfois, quand on a construit l'église à Québec, je ratais des choses, je devais recommencer. C'est frustrant, perdre son temps, l'apprentissage d'accepter de faire des erreurs, n'est-ce pas? Mais sur la terre, nous vivons en tant que croyants, les yeux fixés sur le Seigneur, en regard de l'éternité, et nous ne voulons pas courir en vain. Nous ne voulons pas perdre notre temps. Nous voulons être des hommes et des femmes d'une seule chose, le Christ vivant en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul disait ceci, Colossiens 2:18, aux Colossiens, il y avait un problème, notamment de mysticisme, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Dans cette course, il peut y avoir des déviations possibles. Certains qui prétendent avoir des expériences très particulières, ou dans ce cas, c'est écrit des visions, mais qui finalement les enflent d'orgueil. L'œuvre du Christ, c'est une œuvre qui amène à l'humilité, au brisement intérieur. On doit faire attention à ceux qui prétendent avoir des expériences. Parfois c'est vrai, gloire à Dieu, mais il y a parfois des croyants ou des gens sincères, mais qui sont dans l'erreur, qui font des expériences qui ne sont pas de Dieu. Je me souviens, ça me vient à l'esprit, mais pour vous montrer vraiment quelque chose de précis, ma femme et moi, nous avons parlé à une jeune fille à un moment donné, une jeune femme qui nous a dit qu'elle avait eu une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Alors on l'a écoutée dans le bureau ici, elle nous a dit « Voilà, Dieu est apparu dans ma chambre et j'ai revêtu une puissance. » Alors je vous dis ce qu'elle nous a dit. Hein. Elle nous a dit « Je parle en langue et Et j'ai une puissance maintenant, ma collègue, ma colocataire ne peut plus rester avec moi parce qu'elle était au culte. Et elle dit que j'ai une puissance maintenant qui l'empêche de faire ses expériences. Et on l'a regardé, waouh, enfin nous on n'a pas fait ces expériences. Et puis je dis oui, j'ai commencé à parler de Jésus-Christ. J'ai dit Jésus-Christ, Dieu fait homme. Elle a dit oui, Jésus-Christ, fils de Dieu. Je n'ai pas fait trop attention, mais j'ai relevé quand même qu'elle disait autre chose que je disais. Je disais oui, Dieu fait homme, et j'ai réinsisté là-dessus. Elle m'a dit non, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai dit, mais vous ne croyez pas que Jésus-Christ qui est venu sur la terre et Dieu fait homme? Elle m'a dit non, 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 c'est le Fils de Dieu. Et là, tout d'un coup, tout ce qu'elle avait pu dire avant s'est écroulé. Parce que la vraie expérience spirituelle est toujours centrée sur une personne, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous amène à des expériences dans notre course spirituelle qui amènent à la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas l'expérience qui compte, c'est ce que je veux dire en soulignant cela, c'est Jésus-Christ lui-même. Apprenons à connaître Jésus-Christ, à nous nourrir de sa parole, à l'aimer, à le chérir, à vivre pour lui, à être dans son chemin, dans sa course tracée pour nous par des bonnes œuvres préparées d'avance. Et si on est centré sur Christ, il permettra parfois d'expériences, mais l'essentiel, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Gardons-nous de ceux qui s'abandonnent à ces visions et qui, enflés d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles, pourraient nous détourner de la course. C'est un avertissement de l'apôtre Paul contre le mysticisme. Et puis il y a aussi un avertissement contre le légalisme. Vous courriez bien qui vous arrêtait pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Il y avait des juifs qui voulaient ramener les Galates sous la loi. Et en étant sous la loi, ils devenaient légalistes et ils abandonnaient Christ, qui est absolument suffisant. Alors ces avertissements sont importants, je pense, pour nos vies, pour notre course, notre vie chrétienne qui est comparée à une course. Et puis Paul dit ceci, j'aime beaucoup ce verset, acte 20, 24, il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. » Paul voulait courir, mais avec joie. La joie de l'Éternel sera votre force. S'il n'y a pas la joie, vous pouvez vous faire quelque chose à quelqu'un sans motivation. Il y a des choses difficiles, les examens, il faut quand même être motivé, on est d'accord. Mais on est assez motivé parce qu'il y a un diplôme au bout, l'examen réussi qui nous permet de passer l'année, et puis un jour d'avoir une profession qui nous plaît, on a choisi, on est motivé. Bon, c'est l'exemple des études. Mais nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans être motivés. Et qui dit motivation dit enthousiasme. Qui dit enthousiasme dit la joie. Il n'y a pas de plus grande joie que d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est la parole de vie. C'est de faire passer quelqu'un des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie d'amener quelqu'un au Seigneur. De parler du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer l'évangile de vie. Vous vous rendez compte, Dieu nous a choisis pour que nous annoncions ses vertus, son salut. Des êtres humains comme nous, il aurait pu utiliser des anges, il nous utilise à nous afin qu'on soit porteur du salut en Christ. Et Dieu nous utilise. Et Paul dit, voilà, il a cette joie de courir. Et pourtant, quand on sait toutes les épreuves que Paul a traversées, on se demande comment il gardait la joie. Mais la joie ne dépendait pas des circonstances, dans le cas de l'apôtre Paul, mais de sa communion intime avec Jésus-Christ. Et puis, chaque course a une fin. Heureusement, parce qu'on va s'essouffler quand même. Au bout d'un moment, on s'arrête. C'est la fin. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Tiens, tout en courant, Paul dit, mais j'ai gardé la foi. C'est donc que notre course est une course de la foi, par la foi. Il dit aussi, c'est un acte pour Jean-Baptiste, il dit, et lorsque Jean-Baptiste, entre guillemets, achevait sa course, parce qu'il allait mourir, il a dit, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds, duquel je ne suis pas digne de lier les souliers. On dirait que le Seigneur sait avertir le croyant quand sa course est achevée. Mais c'est le Seigneur qui décide de la fin de la course. Ça ne devrait pas être le croyant. Si le croyant dit, oh maintenant j'en ai assez, j'en ai marre, ras-le-bol, tous ces combats, ces luttes, j'arrête. Est-ce que dans une course, on peut arrêter? Est-ce que dans une course, on peut reculer? C'est dangereux. On est appelé à courir encore. Vous allez me dire, mais votre message, là, le message de courir tout le temps, moi, je ne peux pas. Ben oui, je sais, moi non plus. Vous pouvez courir tout le temps. Non, on va y venir. Mais c'est une course qui a une récompense. La Bible dit, 2 Timothée 4:8, désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Un jour, le croyant est récompensé. Dieu lui donne des couronnes, même si l'Apocalypse dit qu'un jour on les déversera aux pieds du Seigneur pour lui rendre toute la gloire. En fait, j'aimerais faire une remarque qui est importante, me semble-t-il. C'est que cette course, comment Dieu la rend-il possible, si ce n'est par le Saint-Esprit qui nous habite? C'est lui qui nous donne la force de courir. Nous n'avons pas la force de courir, de combattre le bon combat, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, continuellement. On aurait tendance parfois à se décourager. On aurait tendance à baisser les bras, à vouloir s'arrêter, aller au club med pendant quelque temps et tout oublier si c'est possible. Mais impossible. Quand on est marqué par le Seigneur, on est marqué du sceau de l'Esprit qu'il chérit avec jalousie en nous, nous dit la Bible. Et puis, cette course, elle n'est pas une concurrence entre les croyants. J'ai dû réfléchir à cela parce que la vie chrétienne comparée à une course, on pourrait dire, dans un stade, quand les coureurs courent, qu'est-ce qu'ils veulent? Mettre le premier. Les premiers, d'ailleurs, il y en a qui sont tellement ambitieux, bon, ils prennent des anabolisants pour courir plus vite, mais heureusement, on les rattrape tôt ou tard. Ils trichent, mais les tricheurs, dans le royaume de Dieu, ça n'existera pas. On ne peut pas tricher avec Dieu. Alors, on court. Et on court, il y a d'autres qui courent avec nous. Dieu ne nous demande pas de regarder aux autres. Nous ne courons pas en concurrence avec les autres. Tiens, je cours plus vite que toi. Alors, on pourrait dire, je suis plus spirituel que toi. Non, Dieu, je pense que là, devant Dieu, on n'est jamais à la hauteur, n'est-ce pas, à laquelle Dieu nous attend quelque part. Mais quelle est donc la victoire à chercher? Ce n'est pas la victoire sur les frères et sœurs. Ce n'est pas de courir devant les autres chrétiens. Ils ne sont pas des adversaires. L'athlète qui court, les autres concurrents qui courent avec lui, ce sont en quelque sorte des adversaires. Nous n'avons pas des adversaires, les croyants qui concourent avec nous. Mais nous avons pour adversaire qui? Le diable. Qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est lui qui veut mettre les bâtons dans nos roues pour nous arrêter de courir. Et puis il y a aussi, disons-le, le péché, la nature naturelle du croyant, hein, l'homme charnel. Alors lui, il veut nous arrêter. Il dit, écoute, t'as le temps, la paresse, le laisser aller, la convoitise. Il y a tellement de choses que la chair désire. Mais là, quand on regarde à ça, on ne court plus, frères et sœurs. On s'abandonne à soi-même et c'est dangereux. Nous sommes appelés à être crucifiés avec Christ. On n'a qu'une vie à vivre. Ça vaut la peine de la vie pour le Seigneur. Nous ne sommes pas en concurrence les uns avec les autres. Nous sommes là dans le même stade pour une victoire unique pour chacun de nous. Bien sûr, une victoire de l'Église aussi. Nous sommes là pour nous encourager mutuellement. Nous courons ensemble. Nous sommes des témoins les uns vers les autres, des modèles de foi quelque part. Et nous avons besoin d'avoir des frères et sœurs, même dans l'Église, qui parfois semble si fragile, n'est-ce pas? On est si faible, pour nous encourager, pour aller de l'avant, pour glorifier le Seigneur. Et voilà ce que dit Paul en Philippiens. Quel beau passage, frères et sœurs. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Vous voyez, Paul, il est ambitieux dans le Seigneur. Mais je cours, voilà, mais je cours pour tâcher de le saisir, le prix. Puisque Paul dit ça, pour tâcher de le saisir, lui-même Paul, il dit, je ne suis pas sûr de saisir le prix. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est croire que l'anabolisant, hein, on est saisi par Christ puis on court, le jour où on se convertit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Et quel est le but de chaque croyant? C'est pour ça qu'on n'est pas concurrent, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le croyant sait dans les Écritures que son éternité en gloire sera proportionnelle à ce qu'il aura accompli sur terre, dans la mesure où il aura laissé le Christ vivre en lui. Notre vie spirituelle dans le ciel sera amplifiée et sera récompensée proportionnelle à notre vie sur terre. Est-ce que ça vaut la peine de courir ce prix-là? On ne le fait pas pour une récompense, mais on le fait par amour pour le Seigneur. Parce que, comme disait l'apôtre Paul, il dit « J'ai été saisi par Jésus-Christ ». Vous avez été saisi par Jésus-Christ, vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez. Vous avez été saisi par Jésus-Christ, vous ne pourrez plus faire votre volonté comme vous voulez, quand vous voulez, si vous êtes sensible à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Parce que lui veut vous diriger. Et merci Seigneur. Donc nous, c'est juste à nous laisser diriger. Et comme le Seigneur sait que la course est difficile, ici il nous exhorte, il dit, avec persévérance. Vous persévérez dans votre vie? Le mot ici grec pourrait être traduit par patience, le contraire de l'impatience. Quelqu'un a dit un jour, Seigneur, je suis impatient d'être patient. Mais voilà, on a tous nos luttes pour voir les transformations dont on veut bénéficier. C'est l'impatience, le doute, le désespoir. La patience, c'est la persévérance. Je crois que c'est John MacArthur, j'ai lu ça dans un de ses commentaires, il a dit « La persévérance est une ferme détermination à continuer, même quand tout en soi veut ralentir ou arrêter. » En fait, comme j'ai déjà dit, la course n'est pas un simple sprint et on s'arrête et c'est fini, c'est un effort continu. Et j'ai l'impression que le Seigneur veut chercher des gens qui, entre guillemets, tiennent la distance. Il y a trop de croyants qui s'engagent et qui se détournent. Pourtant, des bonnes œuvres préparées d'avance. On vient à la réunion de prière quand on se convertit. Et puis tout d'un coup, on n'y vient plus. Tiens, c'est bizarre. On dévore la Bible. Et tout d'un coup, on arrête, on la laisse, elle devient poussiéreuse. Pourtant, nous sommes appelés à une course dans le témoignage chrétien. Je vais vous dire, ce n'est pas les témoins de Jéhovah qui vont amener les gens au ciel. Eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs d'y aller. Et toutes les tromperies des religions dans le monde, il y en a de plus en plus, et même certaines qui deviennent de plus en plus violentes et belliqueuses. Qui va témoigner? Vous êtes le sel, la terre, la lumière du monde. C'est notre course. La course à la sainteté, au fardeau de la prière, au témoignage chrétien. Est-ce que nous nous sommes ralentis dans ce domaine, certains? Est-ce que nous prions autant qu'avant? Est-ce que nous témoignons autant qu'avant? Est-ce que nous aimons la parole de Dieu autant qu'avant? Est-ce que nous chérissons la présence de Christ autant qu'avant? Marie Durand, peut-être vous avez entendu parler, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, à la tour de Constance, elle n'avait rien dans sa prison. Elle était entourée de murs de pierre. Et quand on visite cette tour, on voit un mot inscrit, « résister ». Et toutes ces années où elle était prisonnière avec ses ongles dans la pierre dure, toutes ces années, elle a repassé avec ses doigts, avec ses ongles, sur des lettres qu'elle a commencé à composer, résister. Marie Durand n'a jamais abandonné sa foi. Lisez l'histoire de l'Église, lisez l'histoire de la Réforme, lisez l'histoire même avant la Réforme, Jean Hus, qui est mort brûlé vif, catholique, mais croyant à la Bible, il est mort, brûlé vif, avec une Bible autour du cou, parce qu'il dénonçait dans le catholicisme les erreurs, et on l'a brûlé vif à cause de sa foi. Des gens, enfin bon, il y a tellement d'histoires, n'est-ce pas? Je sais que j'ai déjà raconté cette anecdote, mais personnellement, elle a bouleversé ma vie un jour. J'étais à Québec, j'étais un pasteur, et j'étais fatigué. Et je me disais, mais il y avait des cas difficiles, enfin bon, parfois c'est pas facile la vie pastorale. Pour moi et mon épouse. Et en fait, c'est un pasteur d'une grosse église qui disait que lui, dans son ministère, tout d'un coup, il avait réalisé qu'en fait, que sa vraie joie, c'était de parler du Seigneur. Mais à cause des contraintes, du stress du ministère, il avait négligé un petit peu régulièrement de prendre du temps pour évangéliser. Et donc, il avait repris ce ministère de contact personnel. Le matin, il déjeunait avec un tel qu'il avait rencontré. Les petits déjeuners aux États-Unis, c'est très fréquent pour contacter les gens. Et puis comme ça, il avait retrouvé la joie du ministère. Et moi, ça m'avait beaucoup encouragé d'entendre cette anecdote. Et ce prédicateur avait dit cette illustration, qui m'a bouleversé à moi, c'est l'histoire d'un Africain. Alors, je n'ai pas malheureusement ni la date des Jeux Olympiques, ni le nom de la personne, ni le nom du pays. Et c'est peut-être mieux comme ça finalement. Alors, il y a le marathon. Tout le monde court. Et évidemment, il y en a un qui court plus vite que les autres. Parce que plus en forme, ou plus doué, ou plus physiquement capable. Et il arrive, alors imaginez, le marathon, les Jeux Olympiques, c'est quand même une compétition là qui est extraordinaire. Tout le monde se lève dans le stade et tout le monde applaudit. Il arrive, il fait un tour, et il est le premier. Et puis même, il se permet de faire un tour d'honneur parce qu'il a gagné, il a la médaille d'or. Et les uns après les autres arrivent, et il y en a qui arrivent, qui s'écroulent, n'est-ce pas? Mais bon, ils finissent la course, mais... Et puis le temps passe, et on remet la médaille, n'est-ce pas, au vainqueur. Et puis tout d'un coup, on voit arriver, dans l'entrée du stade, où les concurrents étaient déjà passés, le dernier coureur. Il court en titubant, il a des difficultés. Ça fait 2 heures que l'autre est arrivé. Il arrive et dans le stade, tout le monde regarde et s'étonne. Il y a plein de choses qui arrivent dans le stade autrement, plus intéressant. Mais tout d'un coup, le public réalise que ce coureur, malgré son retard, parce qu'il est annoncé, tel numéro, veut finir la course. Et tout d'un coup, les gens se lèvent parce qu'ils voient ce coureur qui a des difficultés à courir. Il titube et finalement, il passe... L'arrivée, il tombe à terre complètement épuisé. Mais les gens ont compris le drame de ce coureur. Ils voulaient finir la course. Ils se sont levés pour l'encourager, applaudir. Il est arrivé jusqu'au bout. Il a achevé la course. Et après, on est venu le trouver. On lui a dit, mais pourquoi tu as voulu finir la course? Regarde, l'autre a fini depuis longtemps. Il suffisait d'abandonner. Il a dit, vous savez, je ne cours pas pour moi, mais je cours pour mon pays. Et moi, ça m'a bouleversé d'entendre cela. Parce qu'on court pour le Seigneur. C'est notre vraie motivation. Et même si parfois on titube, si on est fatigué et si d'autres doivent nous encourager, nous arrivons jusqu'au bout, nous achevons la course dans laquelle le Seigneur nous a placés parce que nous courons pour le Seigneur. Et heureusement, nous ne sommes pas seuls, nous courons avec le Seigneur. On peut vite ajouter cela. Et l'exemple parfait, il se trouve au verset 2. On ne va pas regarder ça à l'instant. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Nous, dans la vie chrétienne, vous savez ce qu'on veut, c'est la joie. Ça se voit un chrétien joyeux, d'habitude. Puis la joie fait partie du Seigneur, du bonheur qu'on peut avoir sur terre. Bon, le bonheur peut-être à définir, mais l'idée, la joie du Seigneur, c'est vraiment le bonheur sur terre. Mais vous savez, on est tous candidats à avoir... la joie à bon marché. Mais ça, avec le Seigneur, ça n'existe pas. Le Seigneur est écrit, il est écrit en échange de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix. Et nous aimons bien la joie avant la croix. Mais j'ai remarqué dans ma vie ou dans d'autres vies que souvent la joie vient après la croix, d'être brisé au pied de la croix. C'est ce qui communique vraiment une relation intime avec Jésus-Christ. Mais nous voulons bien souvent passer outre la croix. La course, c'est aussi une crucifixion, de mourir à soi-même, de se dépouiller de tout ce qui entrave à la course et de marcher le plus léger possible pour le Seigneur, d'être un homme et une femme de Dieu, d'une seule chose, le royaume de Dieu, la vie éternelle. Dieu nous appelle à persévérer et Jésus-Christ a persévéré par la foi jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à être élevé à la droite de Dieu le Père. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a au moins 2 versets, j'en lirai que 2, qui parlent de la persévérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. C'est dommage parfois que des gens abandonnent en cours de route alors qu'ils sont tout proches d'atteindre le but de voir la bénédiction de Dieu. Ils abandonnent et ils ratent le prix de la course. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Les disciples parfois étaient même demandés par Jésus à faire des choses où ils étaient éprouvés, mais arrivant au bout, ils voyaient, parce que soumis à la volonté de Dieu, des grandes bénédictions. Et parfois, dans notre marche avec le Seigneur, nous craignons d'obéir. Mais pourtant, si nous obéissons jusqu'au bout, alors nous voyons la joie. Alors un rapport avec ce qui est dit hier, ça me vient à l'esprit, un jeune homme et une jeune fille qui se gardent pour le Seigneur. C'est merveilleux cela. Billy Graham disait, ce sont aujourd'hui les héros de la foi, les jeunes qui se gardent jusqu'au mariage. Mais quelle joie après ! C'est un exemple qui me vient à l'esprit en rapport avec ce qu'on a entendu hier. Il y a un prix à payer pour les bonnes choses. Et c'est Dieu qui peut le rendre capable, ça, on s'entend bien. Dans la carrière, ce n'est pas vous mettre sous la loi. Si quelqu'un est tombé, le Seigneur lui pardonne. Mais en tout cas, c'est la volonté de Dieu qu'un jeune homme et une jeune fille se gardent jusqu'au mariage. Ceci dit, on va terminer avec ça. Courons avec persévérance. On a vu ce que c'était, courir, persévérance, patience, dans la carrière qui nous est ouverte. Quelle est la carrière que Dieu a ouverte pour nous ? Mais c'est d'abord le monde où nous nous trouvons, et le monde a besoin de Jésus-Christ. C'est là où Dieu nous a placés, c'est là où nous travaillons, c'est là où nous vivons tous les jours, parmi nos voisins, nos collègues de travail. Dieu nous a placés, chacun de nous, dans une carrière. Voilà ce que disait Charles Studd, un missionnaire remarquable, qui était en Inde, en Chine et en Afrique. Il a dit ceci, « Certains ne voudraient habiter qu'à l'ombre d'un clocher. Pour moi, j'ouvrirais volontiers une auberge pour escaper aux portes de l'enfer. » Je le relis. « Certains ne voudraient habiter qu'à l'ombre d'un clocher. Pour moi, j'ouvrirais volontiers une auberge pour escaper aux portes de l'enfer. » La vraie carrière, c'est d'être proche de ceux qui se perdent, de ceux qui sont en route pour l'enfer. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés, c'est notre carrière chacun de nous. On peut être dans un même endroit, mais vivre notre course de façon différente. On peut parler à ceux qui nous entourent, du ciel, l'enfer, et les supplier d'être réconciliés avec Dieu, ou on peut négliger notre témoignage et les laisser aller en enfer joyeusement et inconscient. On a une vocation sur cette terre, c'est d'annoncer et proclamer l'évangile de Jésus-Christ. C'est Dieu qui ouvre et qui ferme les portes. Je sais qu'en Apocalypse 3:8, il est écrit « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » C'est là où vous êtes. D'abord, il faut être sûr que là où vous êtes, c'est la volonté de Dieu. Mais si vous êtes dans la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a ouvert une porte. Prenons courage. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le partage, prenons courage de témoigner à des gens. Peut-être on a une crainte, on ne sait pas comment, mais Dieu tout d'un coup ouvre la porte. Il y a un temps de Dieu. Vous priez pour les gens, puis c'est étonnant de voir à un moment donné que le cœur s'ouvre. Parce que c'est Dieu qui prépare le cœur. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte, 1 Corinthiens 16:9, car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Vous courez, vous vous sentez opprimé, attaqué. C'est peut-être un bon signe, c'est que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Et enfin, Paul dit ceci, il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, arrivés près de la Mysie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et il lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait et annonçait la bonne nouvelle. La carrière qui nous est ouverte, c'est faire l'œuvre d'un bon évangéliste. On est tous appelés à proclamer l'évangile, et puis écoutons ceux qui nous entourent, qui nous disent peut-être, et on ne les entend pas assez, secours-nous. Il y a des gens qui ont bien des façades, des façons de se comporter, il semble que tout va bien dans leur vie, alors qu'en fait, ils rentrent chez eux le soir, bien tristes et malheureux et désespérés et seuls. Nous avons une seule vie à vivre. Nous avons une course à vivre. C'est la course de la vie. Nous avons une carrière dans laquelle Dieu nous a placés, qui nous a été ouverte, et c'est lui qui l'a fait. Est-ce que nous courons ? Est-ce que nous sommes là où Dieu veut ? Et pour terminer, j'aimerais vous lire l'extrait de ce livre qui malheureusement n'est plus édité d'après ce qu'on a compris à la CLC. Mais voilà ce que dit Spurgeon. La tragédie de beaucoup d'existences aujourd'hui consiste à ne pas apprécier la grandeur de notre vocation. Alors nous nous contentons de passer notre temps à des choses secondaires, à des futilités aux yeux de Dieu. Nous rampons au lieu de voler. Nous sommes esclaves au lieu d'être rois. Rares sont ceux qui ont la vision de l'audace et l'audace de revendiquer des nations pour Christ. Spurgeon fit une exception. Il écrivit un jour ce message à son fils. « Je ne voudrais pas te voir mourir dans la peau d'un millionnaire si Dieu avait l'intention de faire de toi un missionnaire. » C'est rassurant d'entendre ça de temps en temps. Hein. « Je n'aimerais pas non plus, si tu es apte à faire un missionnaire, te voir déchoir au rang de roi de cette terre. » Que sont en effet les rois, les nobles et tous leurs diadèmes lorsqu'on les compare avec la dignité de gagner des la dignité, c'est ça, de gagner des âmes à Christ avec l'honneur incomparable de bâtir pour Christ. Sur des fondements qui n'ont pas été posés par d'autres, de prêcher l'évangile de Christ dans des contrées lointaines où jamais il n'a été prêché. Une autre exception est exprimée dans la réponse d'un missionnaire à qui le président Coolidge demandait de servir comme ambassadeur au Japon. « Monsieur le Président, depuis que Dieu m'a appelé pour être son propre ambassadeur, mes oreilles sont fermées à tout autre appel. » Et enfin, un dernier exemple que cite Billy Graham, et on termine avec ça, merci de votre patience. Billy Graham nous rapporte un autre fait du même ordre. Lorsque la Standard Oil Company se mit à la recherche d'un représentant pour l'Extrême-Orient, son choix tomba sur un missionnaire. On lui a offert 10 000 dollars, mais il refusa. 25 000 dollars, et il refusa encore, c'était il y a bien longtemps. 50 000, sans plus de succès. Les directeurs lui dirent, « Qu'est-ce qui ne vous convient pas ?» Il répondit, « Vous payez bien, mais l'emploi que vous m'offrez est trop médiocre. Dieu, lui, m'a appelé à être missionnaire. » Ah, qu'est-ce que j'aime entendre ça. Prions, s'il vous plaît. On est tous missionnaires sur cette terre. Hein. Seigneur, merci de tout ce que tu nous as rappelé ou enseigné ce matin. Nous nous mettons à tes pieds. Peut-être y a-t-il un frère ou une sœur ce matin de tes enfants qui a des difficultés à courir, mais je crois qu'on a tous des difficultés à courir, mais qui particulièrement a besoin de revenir vers toi pour courir à nouveau. Lassé, peut-être découragé, il se tient au bord de la piste. Seigneur, je te prie pour chacun de nous que tu nous aides à continuer à courir par la puissance du Saint-Esprit. Et s'il y avait quelqu'un parmi nous, Père, qui est fatigué, qui est découragé, arrêté. Je te prie, Père, de l'aider à revenir vers toi, à reprendre la course par la grâce de Jésus-Christ, peut-être à mettre sa vie en règle, rejeter le fardeau et tout péché, afin de reprendre la course de sa vie. Car nous n'avons qu'une seule course, qu'une seule vie à vivre. C'est avec toi et pour toi, Seigneur. Amen.